FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver. Vous savez, si le titre n'avait pas déjà été pris par une émission de télé, on aurait pu intituler l'émission d'aujourd'hui « Des racines et des ailes ». Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, sur Jazzland, on a le plaisir de recevoir un pianiste que vous venez d'entendre, d'ailleurs, et une chanteuse qu'on entendra tout à l'heure. Alors, le hasard fait bien les choses. Il se trouve qu'ils se connaissent très bien, que l'un joue sur le disque de l'autre, et le hasard du calendrier fait que pratiquement les albums sortent en même temps. À quelque chose près, ils ont failli faire leur concert de sortie en même temps, mais les choses vont se passer autrement. Mais indépendamment du fait qu'ils sortent leur album en même temps, ce qui nous marque beaucoup aussi, c'est que nous les avons aussi réunis parce qu'ils portent, de mon point de vue, une vision du jazz qui vient de la tradition, qui vient des racines, qui vient des figures ancestrales. Donc les racines sont là, mais pour les emmener sur leurs propres ailes, sur leur propre terrain, formidablement ancré dans le présent et avec une formidable liberté. La chanteuse, elle avait déjà exploré quelques grandes figures du jazz au travers, vous l'avez sûrement entendu, au travers de l'album Tribute to Ahmad Jamal. Et elle nous revient aujourd'hui avec une relecture des compositions de Django Reinhardt. Je vais lui laisser dire son nom. Parce qu'elle m'a dit surtout tu le prononces bien. Mais j'allais bien le prononcer quand même.
La grande histoire de ma vie. Cécile Elrekia, bonjour.
Bonjour.
Merci
Cécile.
De me recevoir.
Bonjour Cécile. Et quant au pianiste, vous venez de l'entendre, lui c'est un univers tout à fait personnel qui développe dans une sorte de creuset d'influence qui montre qu'il connaît son histoire du jazz sur le bout de ses 10 doigts. On vient de l'entendre, je vais laisser aussi dire son nom, le pianiste.
Noé Huchard, bonjour.
Noé Huchard, ravi, on vous reçoit pour la sortie de l'album Young and Fine, sorti sur le label Gaïa. Alors Noé, on vous entend beaucoup en ce moment, c'est votre deuxième album. On vous a donc vous avez entendu sur le premier album, on vous a entendu dans un groupe qui a fait beaucoup parler de lui, The Hookup,
fait.
Qui fait partie des nominés d'ailleurs de l'Académie du Jazz. Là, vous arrivez avec ce nouvel album. Vous êtes sur l'album de Cécile. Vous êtes Young and Fine, mais Noé,
j'espère.
mais vous venez d'où, Noé? D'abord, moi, j'ai vu que vous aviez commencé le piano très tôt. Plutôt piano classique, et j'avais une question, c'est que dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous n'avez pas voulu faire de la batterie.
Alors justement, c'était je crois, mais c'est des vagues souvenirs que mon premier instrument, ça a été quand même la batterie, mais très 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 tôt, et je me suis vite aperçu que c'était plus sympa de pouvoir jouer avec mon père, qui est donc batteur pour les gens qui ne sont pas au courant, et de pouvoir jouer avec mon père. Et donc il y avait un piano à la maison et ça s'est fait un peu naturellement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de classiques avant de faire du jazz.
Alors ceci dit, ça amène à une question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que bon, c'est vrai que votre père c'est Stéphane Huchard, mais quand vous dites que vous jouiez avec votre père, il y a une grande question chez les pianistes, et c'est une grande question de Bill Evans aussi, c'est l'accord avec le batteur. Il se trouve, sauf erreur de ma part, que vous avez le même batteur tous les deux.
Alors non. C'est non. Donc non. Pas le même, mais par contre, moi, je joue beaucoup avec le batteur qui est le batteur dans le groupe de Cécile, qui s'appelle David Grébil. Je joue avec David dans plein de contextes.
Avec David Grébil, moi, je le voyais en directeur artistique, en arrangeur. C'est vrai. Pardon. Désolé. Mais vous jouez avec Donald Contomanu.
Exactement.
Et alors, quand on a effectivement l'oreille aiguisée par l'environnement dans lequel vous avez grandi, j'imagine que la place du batteur à vos côtés, c'est quelque chose d'important.
Hyper important. Et en fait, je crois que je suis un peu. Enfin, c'est terrible, mais. J'allais dire un batteur raté, je sais pas, mais en fait j'ai une passion pour la batterie et je joue beaucoup de batterie, malheureusement pas encore, on va dire, avec des gens, beaucoup, même si ça m'arrive un peu, mais en tout cas j'ai un plaisir à jouer de la batterie et je crois que j'ai appris beaucoup sur le piano en ayant pratiqué un peu la batterie. Et du coup c'est vrai que les connexions avec les batteurs, déjà le premier batteur avec qui j'ai eu une connexion, évidemment mon père, mais plein de batteurs différents, c'est primordial, et j'adore rencontrer plein de batteurs différents et essayer de comprendre, et d'essayer de les comprendre, tout simplement. Ouais.
Mais vous avez commencé par des études classiques.
Ouais, au piano, ouais, totalement. Et j'ai pas lâché, toujours pas à peu près, même si c'est le temps manque un peu, mais j'essaye de garder. Ouais, j'essaye.
Est-ce que dans votre jeu de jazzman, ça vous influence au travers de vos compositions ou de votre façon de jouer, d'aborder le piano?
Les deux, vraiment les deux. Alors, je précise que je suis pas un. Il y a des gens qui sont jazzman et qui ont fait du classique à très très haut niveau. Moi, c'est pas forcément mon cas. Enfin, même si j'en ai fait beaucoup, mais par contre, ça m'a nourri très très vite. Enfin, très très rapidement. En fait, j'ai fait un peu le parallèle. Et donc, pour parler vraiment du piano, ça me guide toujours beaucoup au niveau du son de piano, des nuances, des textures sonores, vraiment. Et au niveau de la composition aussi, très très régulièrement, je m'inspire beaucoup de compositeurs classiques plutôt. Enfin. Généralement plutôt fin 19e, des choses comme ça, mais ouais. Et notamment pour cet album.
Alors, vous avez lâché le classique pour rentrer au CNSM, c'est ça?
En fait, je suis rentré au CNSM en jazz, mais j'ai continué le classique avec un prof, toujours. J'ai jamais vraiment lâché les cours. Encore aujourd'hui, je prends encore des cours. C'est beaucoup moins régulier, mais j'essaye de garder un peu.
Et vous aviez un bon prof au CNSM?
Je
pense à Pierre de Bettmann.
Il y a eu Pierre de Bettmann, évidemment. Qui est vraiment un genre de mentor et Hervé Célin aussi qui n'est plus prof qui est à la retraite mais qui justement Hervé accentuait beaucoup sur la technique du piano, le son et qui a lui-même fait beaucoup d'études classiques au CNSM tout ça donc ouais, c'était assez complémentaire.
Ouais. Et en composition?
Et en composition, je dirais que j'ai pas vraiment eu de prof à proprement parler. J'ai eu des profs d'arrangement, je pense à François Théberge, ouais, pense à plein de gens, même d'orchestration classique, parce que la dernière année au CNSM, j'avais écrit pour orchestre symphonique, donc j'ai eu... mais la composition, je pense que c'est aussi plein de choses qui m'ont nourri, quoi. Effectivement, les cours, évidemment, d'arrangement, tout ça, mais aussi le piano classique, les choses qu'on écoute, plein de musiques diverses et variées. Ouais.
Vos pianistes de référence sur votre île de chevet, sur votre île déserte, c'est
De jazz.
Oui.
Y en a quand même beaucoup. Questions compliquées. Je dirais que mon premier coup de cœur, ce serait Herbie Hancock, que j'ai eu la chance de voir très très tôt aussi en concert et même eu la chance d'avoir un autographe. Et ça, c'est qui est accroché au-dessus du piano. Et Herbie Hancock, peut-être le premier. Et toujours aujourd'hui, je découvre des disques. Après, il y a eu plein de pianistes, Bud Powell. Art Tatum aussi.
Art Tatum, je pensais à ça parce que j'ai eu l'impression que votre pochette était un peu un clin d'œil à Art Tatum.
C'est vrai qu'il y a... j'avais jamais pensé, mais il peut y avoir quelque chose, effectivement.
Pensez à ça. Je vous propose, Noé, on écoute un deuxième titre. Je vous propose qu'on écoute Those Guys. C'est qui, ces garçons?
Those Guys.
Ça nous permettra peut-être de parler de l'équipe après.
Oui, ça peut être... C'est un peu dédié aux musiciens avec lesquels je joue, effectivement. Ouais. Et à Donald aussi. Et à plein de copains et personnes un peu étranges dans le milieu du jazz aussi, parfois. Un peu qui vivent la nuit aussi.
Allez, Those Guys. Thank you. Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland à l'IGRFM 93.1 en compagnie de Noé Huchard et de Cécile Ricca. Noé Huchard pour la sortie de l'album Young and Fine qui est sorti sur le label Gaïa. Avant qu'on oublie complètement, on peut d'ores et déjà annoncer la date du concert.
Exactement, le 5 février au studio de l'Ermitage.
Mais avant la fin de l'émission, je pense que je l'aurais redit 5 fois.
Ah
mais,
bon, bah,
mais
ça m'arrange. Hein,
oui, non, mais on est là pour ça. Donc là, on venait d'entendre Those Guys. Alors, on parlait justement de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous accompagne sur cet album?
Oui, alors il y a Clément Daldosso à la contrebasse, qui est un vieux copain qui était notamment au Conservatoire de Paris avec moi. Et Donald Contomanu, qui est d'une autre génération et qui est un batteur que j'écoute depuis longtemps, avec qui j'ai joué assez jeune aussi. Mais, et voilà, on a ce trio-là depuis maintenant 4-5 ans, peut-être un peu plus. Et c'est vraiment, on se régale.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi une certaine Margot Huchard. C'est marrant, elle a le même nom que vous.
Exactement. Et ben voilà, petite dédicace. Exactement, Margot, c'est ma sœur. Et elle est entre autres chanteuse, elle fait aussi, elle est danseuse aussi, comédienne, plein de choses. Et je lui ai demandé de venir éclaircir un peu cet album avec sa voix et dans l'avant-dernier morceau qui s'appelle Banger Nostalgie. Et du coup, ouais, elle m'a fait.
Vous aviez une chanteuse hein, à portée de main aussi.
Mais alors, figurez-vous que Cécile n'en est pas pour rien non plus sur le fait que je chante dans ce disque parce qu'elle m'a donné des cours de chant. Avant que j'enregistre mes voix cet été.
Ah oui, ah oui. Ah,
donc
c'est très très bonne prof.
C'est très très bonne prof, effectivement. Non, vraiment.
Mais alors, justement, dans votre album, il y a des voix, mais ce n'est pas des chansons, c'est des chœurs, des voicings. Il y a un petit peu de percus électroniques, il y a du piano préparé. Est-ce que ça veut dire que vous recherchez, vous êtes en recherche de quelque chose, d'un son particulier?
Absolument, il y avait plusieurs choses, il y avait une réflexion aussi sur pourquoi, et enfin une réflexion un peu personnelle de pourquoi faire des disques en studio aujourd'hui, comment je peux faire pour profiter pleinement du studio et en même temps je fais du jazz, je reste quelqu'un qui joue un piano acoustique et donc l'idée c'était un peu de trouver des textures qui restent acoustiques mais qui font que l'album est vraiment un album de studio pour le coup. Et pas un album qu'on aurait pu enregistrer en live dans un club ou quoi. C'est vraiment, ça a été travaillé comme vraiment avec les moyens du studio.
Il y a un morceau dans l'album qui s'appelle Left Me Crying.
Hein, oui.
Je me suis demandé, c'était pas est-ce que c'est un prélude à peut-être un travail en solo, peut-être un jour
J'aimerais beaucoup. J'adore jouer piano solo. Je trouve ça très, très dur aussi et très exigeant. Mais effectivement, ça m'arrive de faire des concerts solo. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai l'impression aussi beaucoup d'avancer en faisant ça parce que c'est prise de risque un peu. Mais ça serait génial. J'aimerais beaucoup faire un album piano solo un jour. Je pense que c'est un objectif un peu.
Alors, je reviens sur les influences et là, j'ai posé la question à la fois à vous, Noé, et aussi à Cécile. Je disais que l'émission aurait pu s'appeler Des racines et des ailes, si le titre n'avait pas été pris. C'est pour vous important de revenir à une certaine forme d'identité du jazz ou de tradition du jazz? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous pour avancer? Cécile, peut-être?
Ben, c'est important pour moi parce que j'aime bien me ressaisir des traditions et des terreaux pour pouvoir en faire ma chose. Je trouve qu'il y a une vivance incroyable dans tous ces répertoires qu'on peut juger parfois un peu anciens ou désuets. Et moi, je trouve ça très, très intéressant de les revisiter. Après, moi, pour mon propre compte, personnellement, je suis très attachée aux racines et aux traditions.
Bah, dans votre travail, Cécile, on va en reparler tout à l'heure, mais dans votre travail, vous êtes remonté même jusqu'aux racines de la Nouvelle-Orléans.
Oui,
aussi,
oui, bien sûr.
C'est d'ailleurs, Noé, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, cette musique-là?
Totalement. Alors, oui, totalement. J'ai notamment un peu travaillé sur Jelly Roll Morton, en fait, qui était un peu le premier. Oh. On dit que c'est un peu le premier jazzman,
oui,
je sais pas, lui, il s'auto-proclamait.
Pas le plus facile.
Pas le plus facile, mais j'avais pas mal travaillé. Aussi fait un mémoire en fait sur sa vie, tout ça, notamment au CNSM, et ça m'avait permis d'apprendre plein de morceaux et de découvrir un peu tout ça, ouais. Absolument.
Et donc, et pour vous aussi, c'est important de partir, d'avoir cette base au départ, de partir de là pour aller vers votre propre univers, c'est ça ?
Ouais, c'est important totalement. Et j'ai l'impression aussi que dans mon cas, c'est souvent aussi, je suis généralement un peu en recherche d'originalité, on va dire, même si c'est un peu abstrait. Mais c'est peut-être plus facile d'être original en puisant un peu plus loin que ce qui s'est fait ces 10 ou 15 dernières années peut-être, et de même puiser 100 ans avant et 200 ans, pourquoi pas. Mais et il y a toujours, effectivement, c'est hyper inspirant pour
moi. Comment on fait pour cultiver son originalité dans un paysage du jazz qui est foisonnant? Ça veut dire que vous avez beaucoup de compositions, puis il y en a plein que vous mettez à la poubelle parce que vous dites « ouais, mais non, je sais pas, comment ça se passe en fait ?»
C'est vrai. Alors, au niveau des compositions, pour cet album, je voulais qu'il y ait une certaine cohérence, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y en a qu'on n'a pas enregistré, qu'on peut peut-être jouer en concert, mais qu'on n'a pas mis dans le disque. Je pense que c'est un peu savoir ce qu'on aime aussi, ce qui n'est pas facile, hein, mais de savoir ce qu'on aime vraiment. Et là, on a envie vraiment d'aller. Par exemple, parfois, je me dis, est-ce que j'aimerais bien aller m'écouter aller écouter mon propre disque, quoi, ouais. Si j'étais un peu extérieur. Donc essayer d'avoir ce recul-là.
Vous avez écouté votre disque?
J'ai écouté mon disque, ouais, mais peut-être pas avec le recul nécessaire encore.
Alors, dans le communiqué de presse, on parle de quelque chose qui m'intéressait. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, en ce moment, sur Aligre, nous avons dédié la semaine, une semaine thématique où plein d'émissions sont dédiées autour d'un thème. Et le thème de cette semaine, c'est avoir 20 ans en 2026. Vous avez un petit peu plus que 20 ans.
Oui,
pas 26. Beaucoup, 26 ans, voilà. C'est plutôt 26 ans en 2026. Mais il y a dans votre album, d'après ce que j'ai lu, hein, du communiqué de presse, aussi un regard sur la jeunesse actuelle.
C'était un peu l'idée de à la fois, c'est un album assez introspectif, parce que finalement, chaque morceau parle un peu de moi, mon propre vécu, mais c'était aussi comment transformer ça pour avoir un regard, encore une fois, de prendre un peu de recul. Et finalement, aborder des thématiques que peut-être la jeunesse, pas forcément qu'en France, dans le monde, peut être amenée à être confrontée, quoi, tout simplement. Donc c'était un peu cette idée-là. Ouais.
Mais alors, puisqu'on parle de la jeunesse, puisque c'est le thème de la Ligue en ce moment, quand on fait du jazz, je me pose la question à tous les deux, comment c'est un challenge de faire venir un public jeune dans les concerts. Comment vous faites? Vous avez vos copains, ça c'est sûr, qui viennent. Mais pour le reste, c'est comment on aborde ce public?
C'est pas évident, effectivement. Je pense que peut-être qu'on peut s'inspirer aussi, et c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire dans les visuels et dans la direction artistique un peu visuelle de l'album.
La pochette est incroyable.
Il y a quelque chose qui peut-être...
Vous allez nous l'expliquer d'ailleurs, la pochette.
Ah ouais, voilà. J'ai mon ami qui a travaillé sur la direction artistique visuelle, devait venir finalement, il n'a pas pu. Mais il m'a aidé aussi à peut-être s'inspirer de codes qui sont des codes d'autres musiques et des musiques un peu plus... Enfin, non pas que le jazz soit pas actuel, mais des musiques aussi d'aujourd'hui, autres que le jazz, quoi, tout simplement. Donc s'inspirer du hip-hop, de voir un peu ce qui se fait. Je parle vraiment de l'aspect visuel et aussi de comment on peut vendre sa musique avec le monde qui évolue par rapport à ça aussi. Ouais.
Mais Cécile, je ne sais pas si vous avez écouté l'album.
Moi, je réfléchissais aussi à... En fait, moi, j'ai fait pas mal d'interventions pédagogiques dans des lycées techniques, notamment pour l'Esprit Jazz, qui est l'association qui porte le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Et donc là, je m'adressais vraiment à un public jeune et qui effectivement ne sait pas toujours par quel biais aborder cette musique. Et je pense qu'il y a pas mal de pédagogie à faire autour de ça aussi, dans la manière qu'on a d'en parler, d'en dépoussiérer les mots qu'on a déjà pour la décrire.
Oui.
Et puis après, je pense qu'il y a aussi des actions à mener. Parce que les jeunes, s'ils ont du mal à venir dans des clubs ou dans des festivals, souvent c'est aussi une histoire de moyens. Et donc je pense qu'il y a aussi un effort à faire de ce côté-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut amener un public jeune à la faveur de tickets d'entrée, peut-être.
Absolument. Et puis moi, j'ai tendance à dire, mais ça c'est mon expérience personnelle qui n'a aucun intérêt, mais quand même je vous la livre, c'est que les personnes un peu plus âgées, quand vous allez écouter du jazz, si vous avez des ados dans la famille... proposez-leur de venir avec vous et ça crée vraiment un déclic. Moi, c'est du vécu, ce que je vous dis. Je vous propose qu'on écoute, puisqu'on parle de jeunes sympathiques, je propose qu'on écoute le titre éponyme de l'album.
Allez.
Young and Fine. Thank you.
L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à
17h. Et oui, tout comme elle a dit, la dame, Jazzland sur Aligre FM 93.1 en compagnie de Noé Huchard pour la sortie de l'album Young and Fine. On venait d'entendre le titre éponyme sur le label Gaïa. Et là, un peu sous la direction, puisqu'on a entendu Noé Huchard chanter, faire des voicings, presque sous la direction artistique de Cécile Ricca qui est avec nous. Juste avant qu'on passe à vous, Cécile, juste d'abord, on rappelle à nouveau la date du concert, donc le 5 février
à l'Ermitage,
au studio de l'Ermitage à Paris. Donc on y sera, c'est 20h, oui c'est ça, je crois que c'est ouverture des portes à 20h. Mais juste un tout petit mot, racontez-nous la pochette de l'album.
Et bah, je fais une dédicace à Areski, qui est un de mes meilleurs amis, qui devait venir. Il m'a dit je peux venir à la radio et finalement il n'a pas pu. Et Marilyn, qui est une super graphiste, Marilyn Véron, qui ont monté, notamment Areski, une boîte justement pour accompagner les artistes indépendants qui s'appelle Fiasco, qui sont en train de faire ça. Et donc cette pochette, c'était l'idée de... Il y a un peu le côté... Déjà, ça a pris du temps parce que c'était vraiment l'idée des collages. C'est Marilyn qui a eu cette idée. Et voilà, je pense que ça correspond bien à Young and Fine, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est plutôt fine, et une partie qui est plutôt young, et une partie qui n'est pas totalement fine. Et on sent un peu quelque chose de torturé. Ça correspondait hyper bien à la musique. Et voilà.
Noé, vous restez avec nous ?
Absolument.
Parce que on va vous faire écouter une chanteuse, et elle est accompagnée d'un super pianiste, tiens d'ailleurs. Là, je vous propose qu'on découvre tout de suite l'album de Cécile Elricia avec Mabel.
Stirred the pot, made you feel you didn't belong. They felt so strong, treated you like you were nothing. Set yourself apart, get through with sponges who put you down, make you feel ugly. Don't you let no one make you feel sad. See what happens, goodbye and good riddance. Do you really care for the talk of the world? You've never been a crow with a broken wing. Life is like two kids, all toy and pain. Let them cuddle each other in the same bed. In your best, cause you wanted to belong so bad. Be their best friends, even though they made you lose your bearings. Thank you.
eyes might get you spinning, punch a bun too. Funny how it's in it, yesterday's news. All it takes is to thump your nose at it. Do you really care for the talk of the world? You've never been a crow with a broken wing. Do you really care? Do you really care? Do you really care for the talk of the world? You've never been a crow with a broken wing. Do you really care?
Et oui, sur Jazzland Aligre FM 93.1, on vient d'entendre Ma Belle tirée de l'album qui sort le 30 janvier sur le label Ouest et qui s'appelle Cécile Henrichia Sings Django Reinhardt. Alors, c'est pas complètement évident pour les auditrices et auditeurs de se dire, de se raccrocher à Django Reinhardt. Mais Cécile, moi j'avais une question à vous poser. Vous étiez partie de d'Ahmad Jamal que vous aviez complètement retravaillé. Ouais. Pourquoi Django aujourd'hui?
Alors il y a quand même tout un cheminement entre les deux, parce que en fait c'est un album qui fête mes 10 ans de carrière discographique, puisque Ahmad Jamal est sorti il y a 10 ans.
Déjà, oui.
Ouais. Et ouais, 2015, ouais.
Formidable album d'ailleurs.
Merci. Et puis on est passé par la Nouvelle-Orléans, et puis on est passé par Blue Note.
Alors, vous n'avez jamais vraiment quitté, on va en reparler tout à l'heure, mais vous n'avez jamais vraiment quitté la Nouvelle-Orléans.
On l'a jamais trop quitté, parce que je travaille avec David Grébille, donc le batteur sur tous mes projets, et qui est aussi aux arrangements, à la direction artistique, et on fait un gros travail autour des rythmes et des grooves. Et donc effectivement, la plupart viennent quand même De ce terreau qu'est la Nouvelle-Orléans. Donc oui, on retrouve une patte, ce fil conducteur. Qu'est-ce qui nous amène à Django? Déjà un retour aux racines, mais sur le territoire français déjà. Et puis parce que moi j'avais très envie de poursuivre sur ma lancée du dernier disque, sur lequel j'ai écrit tous les textes sur des morceaux instrumentaux qui n'avaient jamais été chantés. Et donc à chaque fois qu'on termine un disque avec David, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire ensuite. C'est toujours un grand sujet. Et puis, moi je viens de la musique classique aussi, c'est-à-dire que mon introduction dans la musique, elle se fait par le piano classique. Alors j'ai pas du tout le parcours de Noé, mais j'ai longtemps fait du piano classique. Et donc, on réfléchissait avec David, et on réfléchissait déjà depuis quelques temps, on se posait la question de savoir si on n'allait pas visiter peut-être un peu Ravel ou Debussy, et puis de fil en aiguille, David me dit Django. Ah. Je fais, t'es sûr? Il fait, ouais, Django. Bon, d'accord.
Mais ce qui veut dire retravailler complètement Django. Ouais. Alors d'abord, Stéphane Grappelli disait Django, c'est sans tambour ni trompette. Là, c'est avec tambour et trompette et sans guitare. Ouais, ouais. Donc un gros travail d'arrangement et puis un énorme travail sur les textes aussi.
Ouais. Oui, oui, alors ça n'a pas été facile de s'en emparer. Moi, je confesse aujourd'hui, c'est un projet qui m'a fait très très peur, parce qu'il a fallu s'affranchir de l'esthétique manouche.
C'est ça.
Et au départ, d'ailleurs, le disque devait s'appeler The Music of Django Reinhardt, parce que ce qu'on voulait vraiment travailler, c'était sa musique. Mm-hmm. Il n'a jamais été question de faire un projet de musique manouche. C'est pas la musique que nous jouons. Il y a des gens qui font ça très très bien. On leur laisse faire. Mais il a fallu que je m'affranchisse de l'esthétique, des tempi, des orchestrations. Tout réinventer pour pouvoir imaginer des textes aussi et des narrations. Donc assez rapidement, moi j'ai posé juste les mélodies et les accords sur des partitions et j'ai arrêté d'écouter Django. J'y suis revenue bien plus tard, après qu'on a choisi une tracklist en fait.
Mais ça, ce qui permet aussi, on va passer un deuxième titre là, mais ce qui permet aussi de découvrir aussi autre chose de Django, parce que Django qui est souvent ramené à le fait que c'est l'un des plus grands guitaristes au monde, mais aussi compositeur.
Bien sûr.
Compositeur. Je propose qu'on écoute Blue Drag, d'accord ?
Ouais, merci.
Chin up, won't drag me down. Head up, won't pull me back. Look down, won't make me cry. Ain't got no one to make me down. Gossips won't care about. Gaslight won't tumble down. Ill deeds will turn my back. Ain't got no one to make me down.
green to be shy, impressionable, it's long gone by. Back then I was too soft to keep a stiff lip and wear away my sorrow. Broken has been fixed, shadows revealed my lights, heartbeat has led my way, anger nothing to make me die.
Avec Cécile Elrecchia. Tiens, d'ailleurs, Cécile, le L pour... on peut le dire ou c'est confidentiel?
Non, c'est plus confidentiel. Tout le monde me pose la question, ça interpelle beaucoup. Oui. C'est le prénom de mon grand-père, c'est Louis.
D'accord, Cécile Louis Elrecchia. Oui. Ah, d'accord, très bien. Donc, pour la sortie de l'album Things Django sur le label Label West. Et pour tout de suite, pour qu'on ne l'oublie pas, d'abord deux choses. Premièrement, Armand à la technique derrière, parce que je ne veux pas l'oublier en fin d'émission. Donc Armand, on te salue de la main derrière la vitre. Et Cécile, la date de concert de sortie de cet album,
qui a
été décalée.
Ce sera le 23 avril au Bal Blomet.
Alors pour les auditrices et auditeurs, si vous voyez sur les réseaux quoi que ce soit, le 5 février, ne vous trompez pas, le 5 février c'est Noé Huchard et le 23 avril au Bal Blomet, Cécile Elrecchia. Alors revenons sur Django, donc on se disait un peu hors micro que c'est incroyable comment au travers justement d'un album comme le vôtre, on se rend compte de la richesse des compositions de Django et comment elles enluminent en quelque sorte les compositions de Django. Comment vous avez fait pour choisir les compos? Vous ne vouliez pas mettre À part Manoir de mes rêves, vous ne vouliez pas tomber dans les grands standards?
Je ne voulais pas forcément tomber dans les grands standards, d'autant que des grands morceaux tels que Nuages ont déjà fait l'objet d'une interprétation vocale et d'une écriture de texte. Ouais. Donc moi j'avais très très envie d'apporter moi mon écriture et mes propres textes. C'est toujours très compliqué, c'est-à-dire qu'on fait des heures et des heures d'écoute, puis on a des playlists qu'on rapetisse au fur et à mesure des écoutes, en disant ça oui, ça non. Parfois, David m'impose des thèmes, en disant celui-là, il faut le faire absolument.
David Grébille, qui est à la fois batteur et un peu directeur artistique aussi, ou arrangeur.
Oui, carrément.
D'ailleurs, c'est l'équipe qui vous accompagne?
L'équipe, donc Noé Huchard au piano.
Ah ben vous le saluerez. Ah ben il est là.
Raphaël Devers à la contrebasse, qui d'ailleurs avait joué le rôle du contrebassiste de Django Reinhardt dans le film qui lui a été consacré avec Reda Kateb. Alors ça, c'était assez drôle.
Oui, c'est vrai.
David Grébil à la batterie, aux arrangements, et Malo Mazurier à la trompette.
Qui lui aussi est très ancré dans la tradition.
Oui.
Comment est-ce que votre album, vous l'avez fait écouter à des manouches, des jazzmen manouches, et comment ils reçoivent cet album?
Alors, c'est une excellente question, je n'en ai aucune idée.
Vous attendez au fait que beaucoup vont vous dire les compositions, ça met en évidence les compositions de Django, et beaucoup vont vous accuser de trahison.
Alors oui, mais il y aura forcément des fâcheux à qui ça ne va pas plaire, parce que je me suis attaquée à une statue du commandeur.
C'est ça.
Mais comme c'était le cas pour Ahmad Jamal.
Oui.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le point de vue de Max Robin, qui est le directeur artistique de la Belle Ouest, qui a consacré un ouvrage passionnant de relevé de partitions du travail de Django et qui a publié un ouvrage là-dessus. Moi, quand je lui ai parlé du projet, il était ravi. Je lui ai dit, oui, mais alors, attention, ce n'est pas un projet manouche. Il m'a dit, mais alors, au contraire, moi, je trouve ça très, très intéressant. Et la Belle Ouest a suivi. Donc, moi, c'était ça qui m'intéressait. Il y a forcément des gens à qui ça va pas plaire parce qu'il y a pas de guitare.
Ça c'est pas très grave. C'est sûr. Vous y attendez en tout cas.
Oui, bien sûr. C'est pas très grave.
Mais par contre, il y a du swing.
Ben oui.
Voilà.
J'espère. C'est... Je crois que ça swing.
Là, je crois que les auditrices et auditeurs ont entendu. Et d'ailleurs, je me retourne vers Noé, donc qui tient le piano. Là, est-ce que Noé, ça vous a donné aussi l'occasion de redécouvrir les compositions de Django? Est-ce que vous les avez découvertes sous un autre angle?
Absolument. Et il y en a même, d'ailleurs, que, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas, que Cécile et David ont amené. Et effectivement, moi, ce n'est pas une musique que je connais très bien. C'est une musique que j'aime beaucoup écouter, mais que je ne connais pas très bien. Et du coup, ça m'a permis un peu de me plonger dedans aussi. Et effectivement, de faire les liens aussi, on le disait tout à l'heure, mais avec la musique impressionniste de Debussy, avec plein de choses, la musique évidemment américaine, le jazz.
Et alors, comment on travaille les textes?
L'écriture de texte, ça me surprend moi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Alors déjà, moi, j'aime bien... J'ai pas mal de techniques. J'ai des cahiers de notes et dans mon téléphone, j'ai plein de notes d'ébauches, de bribes de texte. C'est-à-dire je suis un écureuil, j'accumule du texte et des idées. Donc j'ai plein de réservoirs d'idées de texte et j'utilise beaucoup la technique du collage. J'aime beaucoup faire des collages de textes et construire des textes comme ça, puis après je les affine. Parfois c'est le titre qui est un point de départ. Parfois David me souffle une idée aussi. Voilà comment je travaille. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut être un travail assez besogneux.
Indépendamment des compositions en elles-mêmes, il y a la question, j'imagine, du rythme de l'écriture.
Bah, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je disais j'ai très tôt eu besoin de m'affranchir des versions d'origine, parce qu'il y a souvent des tempi très très rapides, un langage qui est très profus. Moi, je ne voyais pas du tout comment écrire là-dedans. Donc, il a fallu que j'y voie clair pour pouvoir commencer à entendre du texte émerger, parce que le tempo a changé, parce que le groove a changé. Après, moi, je suis partie parfois sur des thématiques sur lesquelles je me suis obligée. Swing 39, j'ai écrit sur une amitié épistolaire que j'ai eue pendant 30 ans avec un monsieur qui habitait aux États-Unis et que je considérais comme mon père. Donc voilà, l'histoire de Swing 39, c'est ma relation épistolaire avec cet homme auquel je tenais beaucoup. Manoir de mes rêves, c'est une maison je vais très souvent dans le sud de la France.
C'est un peu le seul grand standard que vous avez repris.
C'est le seul, ouais. Ouais.
Ouais, peut-être un peu Blue Drag qu'on vient d'entendre, mais...
Blue Drag, c'est devenu un standard qui a été attribué à Django parce que c'est devenu un de ses grands tubes, mais en l'occurrence, il ne l'a pas composé, celui-ci.
Oui.
Ouais, c'est Joseph Miro. Ouais. Mais Nymphéa, qui est un morceau très, très impressionniste, je trouvais qu'il était très cinématographique dès la première écoute. Et j'imaginais, je ne sais pas pourquoi, un paysage de Landes. Et donc assez rapidement j'ai creusé autour de ça, ça m'a pris presque un an pour écrire le texte, et puis un jour m'a raconté une anecdote d'une maison où je vais souvent en Bretagne, qui est sur une lande, Et on m'a dit, ah, mais en fait, c'est parce que la grand-mère qui a fait bâtir cette maison, quand son mari l'a demandé en mariage, elle lui a dit, d'accord, mais moi, je ne veux pas que tu m'offres une baie de fiançailles, je veux une lande. Et ça a été le point de départ de l'écriture de mon texte. Et le lendemain midi, j'avais fini de l'écrire.
Ben nous, on vous offre Jazzland.
Yes, c'est vrai.
Alors, il y a quelque chose qui est important dans votre musique. On retrouve, c'est un peu un fil conducteur. Vous êtes amoureuse de la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Non, vous êtes dubitative.
Bien sûr.
C'est un peu le fil conducteur.
J'en ai chanté le répertoire pendant quelques années.
Voilà, c'est ça.
Oui,
mais même là, on l'entend aussi.
Ouais. Ah bah dans Blue Drag particulièrement.
Oui, bah oui.
Ouais. Ce morceau-là, dès que je l'ai entendu, alors même dans sa version originale, tout de suite, moi, j'ai entendu un thème de la Nouvelle-Orléans. Tout de suite. Et donc, avec David, on a travaillé un groove autour de ça, oui. Ouais.
C'est un peu un rêve fantasmé, Django à la Nouvelle-Orléans. Vous y êtes allé, vous, là-bas ?
Même pas.
Pas ? Et donc, c'est peut-être votre propre rêve d'y aller.
C'est mon fantasme à moi.
Fantasme à vous, oui, tout à fait.
Oui, oh, bah, je suis sûre que ça lui aurait plu d'y aller. Hein. Déjà, il est allé à New York. Je pense qu'il y avait quand même un désir profond chez lui de passer de l'autre côté de l'Atlantique. Hein.
Bien sûr.
Ouais, mais l'histoire nous raconte qu'il a été déçu dans ses espoirs, mais je pense que la Nouvelle-Orléans lui aurait beaucoup plu aussi.
Notamment la rencontre avec Duke Ellington.
Bah, ouais. qui n'a pas porté les fruits qu'il espérait.
Qui n'a pas abouti, mais qui nous laisse nous-mêmes sur un fantasme de ce qu'aurait pu être effectivement cette rencontre de Django avec...
D'ailleurs, l'ombre de Duke Ellington n'est pas très très loin non plus dans le travail qu'on fait. Elle plane un peu quand même.
Alors là, quand vous allez faire ce concert, donc on redit à nouveau la date, hein, le 23 avril au Bal Blomet, il y a des morceaux en stock là, qui ne sont pas enregistrés, que vous avez sous le coude ?
Peut-être.
Ça, ça s'appelle du teasing. Donc, alors on revient sur ce qu'on disait avec Noé, la tradition. Et c'est un peu une question que je vous pose aussi à tous les deux, comme vous puisez dans la tradition. Vous êtes attaché à une identité du jazz. Excusez-moi, c'est pas pour ouvrir un débat fumeux, vos albums respirent le jazz. Donc il y a une identité du jazz, c'est important. D'ailleurs, par exemple, Cécile, dans vos albums, pratiquement tout est en acoustique toujours, ou je me trompe ?
Non, il y a quelques enregistrements qui ont
plus
été acoustiques.
Du micro.
Il y a quelques enregistrements qui ont été acoustiques, oui, effectivement. Oui. En tout cas, on est attaché à avoir un son qui s'en rapproche le plus possible. Moi, j'aime pas les sons trop propres sur les disques. J'aime bien que ça sente quand même un petit peu le jazz club et la cave en sous-sol, quoi.
Et vous, Noé, cette question d'identité du jazz qui se dilue pas forcément dans du rock, dans du machin, etc., c'est important pour vous ?
En tout cas, je pense que effectivement, il y a un langage qui existe, en fait. Et moi, je suis assez attaché à ce langage-là. Mais en même temps, ce langage permet de faire plein de rencontres musicales autre.
Oui.
Mais je pense que c'est vrai que moi je suis assez attaché au fait de connaître un peu cette langue et de pouvoir justement communiquer avec cette langue-là, avec d'autres langues aussi, parce que voilà, le jazz c'est quand même la musique peut-être qui s'est nourrie le plus d'autres musiques. Mais ouais, je dirais quand même qu'il y a un langage à connaître.
Absolument. Ouais. Absolument. Enfin, nous en tout cas, je pense que les auditrices et auditeurs entendent dans ce qu'on leur passe aujourd'hui et tous les autres jours, effectivement, cette identité du jazz qui se dilue pas dans autre chose. En tout cas, vous le portez bien, vous portez très bien le message. Donc, écoutez, les amis, on va se quitter avec un dernier titre. On va passer Nagasaki.
Allez.
Nagasaki, c'est un titre qu'il a enregistré sous le nom de quand
Oula, alors là, vous me posez une colle sur mes notes.
On va, mais c'est moi-même, j'aurais dû regarder, je ne connais pas mon Django par cœur. En tout cas, ça permet effectivement... Non, mais votre album permet de réviser son Django parce que ça permet encore une fois, et c'est très intéressant, je conseille aux auditrices et aux auditeurs d'écouter votre album et puis après d'aller réécouter les titres et d'aller écouter les originaux. Et vous allez voir, effectivement, vous allez découvrir, grâce à vous, Cécile, on découvre effectivement des pépites. Je crois que, voilà... C'est à peu près tout dit sur cet album et on pourrait parler de Django pendant des heures. 23 avril au Bal Blomet, 5 février pour Noé Huchard, au studio de l'Ermitage. On va se quitter avec Nagasaki. La semaine prochaine, on se retrouve avec deux pianistes, Ramona Horvath et Laurent Epstein. Et puis, je vous annonce que dans 15 jours, vous aurez le grand plaisir d'assister au retour à l'antenne et au micro de Alex Dutil, que les amateurs de jazz connaissent et qu'on ne présente plus. Je ne vais pas dévoiler le thème de son émission, mais je vous annonce qu'Alex Dutil nous donne rendez-vous tous les mois sur Jazzland. Donc on se quitte avec Nagasaki, à suivre Lusitania. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Et merci encore Armand derrière la vitre. Ciao.
While you're sleeping, make a fool of yourself. They're always steady and never lose their mind. Life is a jungle that lands on you. You're at a loss what to do. How nice it is how we're living when you never feel on the water. No fallout, anxiety. You never have to watch your six if you're fidgety. Try before you deny. Don't you take a seat in back up for a while.
FM 93.1